Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglot, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktree Bio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafu ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produit de grande qualité assuré. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphane Alix. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, je vais vous présenter pour les personnes aussi qui ne vous connaissent pas. Donc Stéphane, vous êtes journaliste, fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires.
C'est ça.
Et du magazine Inexploré. Donc, vous êtes aussi le concepteur et présentateur des enquêtes extraordinaires sur M6. Mais vous êtes surtout un ancien donc reporter de guerre. Vous êtes aussi auteur de plusieurs best-sellers, dont Le Test, Nos âmes oubliées. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment prendre pour appui votre dernier ouvrage, intitulé « La mort n'existe pas », présenté aux éditions HarperCollins. Donc, dans cet ouvrage, vous élucidez le mystère de la conscience. Vous nous partagez vos nombreuses années de recherche auprès de médecins, de chercheurs. Vous vous adressez aussi à votre fille, Luna, en lui expliquant ce qui se passe lorsque nous mourrons. Enfin, vous partagez aussi votre long cheminement, notamment vos expériences chamaniques en Amazonie, qui ont aussi transformé votre rapport à la mort et à la vie. Ma première question, Stéphane, c'est vraiment de vous demander pourquoi avoir souhaité écrire ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cheminement, du parcours ?
Alors déjà, je n'élucide rien, je ne suis pas un génie qui tout d'un coup aurait trouvé les grandes questions de l'univers. Non, j'ai fait mon métier de journaliste et j'ai enquêté sur le sujet de la conscience et ce livre est en fait le fruit de plusieurs années d'enquête auprès de scientifiques, de médecins et puis de mes expériences personnelles. Pourquoi je l'ai écrit ? Parce que j'ai été confronté à la mort il y a de ça un peu plus de 20 ans en perdant mon frère dans un accident de voiture. C'est un sujet sur lequel on ne s'intéresse pas, qu'on remet à plus tard parce que voilà, parler de la mort, penser à la mort, c'est morbide, c'est effrayant, ça déconcerte, puis surtout ça sert à rien. Enfin, ça c'était mon opinion avant. Et puis voilà, mon frère meurt devant mes yeux dans un accident de voiture et ce décès évidemment réveille un milliard de questions, des questions d'ordre plus existentiel en fait. Mais en tant que journaliste à l'époque, je m'imaginais même pas une seule seconde qu'il soit possible de travailler sur la question de la vie après la mort, parce que je considérais que c'était du domaine du religieux, que c'était du domaine des croyances, et qu'il n'y avait absolument pas de matière pour travailler scientifiquement dessus. Et ma grande surprise, ça a été de découvrir, d'entendre parler des expériences de mort imminente. Vous savez, ces expériences où des gens, pendant un accident de voiture, un arrêt cardiaque pendant une opération ou autre, ont l'impression d'être sortis de leur corps, d'avoir vu la lumière, et d'avoir vécu une expérience assez intense. Et en fait, comme mon frère est mort dans un accident de voiture, je me suis dit, est-ce que si on l'avait pu le ranimer, s'il n'était pas mort sur place, est-ce qu'il nous aurait raconté être sorti de son corps, avoir vu la scène du dessus ? Sous-entendu, est-ce que cette expérience, c'est ce qui se passe au moment de la mort vraiment ? Ou est-ce que c'est juste une hallucination, juste un délire, un rêve d'un cerveau qui est en train de souffrir au moment de la mort ? Donc en fait, ça a été le début de mon enquête, le début de mon travail journalistique, et plus de 15 ans après, dans ce livre, La mort n'existe pas, je fais vraiment l'inventaire méthodique de toutes ces expériences et toutes les recherches qui ont été conduites autour de ces expériences. Donc, je parle d'expérience de mort imminente, expérience de contact avec des défunts, expérience de sensation de présence au moment de la fin de vie. Enfin, il y a quantité de choses qui se passent autour de nous auxquelles on ne prête pas attention ou qu'on classe un peu rapidement et un peu avec dédain comme ou du surnaturel ou du pas vraiment important. Mais quand on va voir les scientifiques qui travaillent dessus, on s'aperçoit que non seulement ces phénomènes sont réels, mais que leur accumulation devient une sorte de preuve irréfutable que la conscience survit à la mort du corps. Donc ça vaut le coup de faire une enquête là-dessus quand même, non ?
Oui, complètement. C'est passionnant, surtout. Justement, je voulais vous poser une question aussi. Donc surtout, vous citez Ramdas, qui était professeur de psychologie à l'université, en disant cela, le moment de la mort n'est autre que le voile donc qui sépare la personne organisant de l'au-delà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur toutes les expériences comment est-ce que vous pourriez définir peut-être ce moment de la mort ?
Ça, c'est oui, cet enseignant spirituel le dit, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Et c'est ça qui est troublant, c'est que quand vous allez demander à des Tibétains ce qui se passe au moment de la mort, quand vous allez demander à des chamans ce qui se passe au moment de la mort, donc dans des cultures diamétralement différentes, et quand vous allez demander aussi à des psychiatres qui accompagnent des personnes en fin de vie, à des chercheurs qui ont étudié les expériences de mort imminente et qui ont recueilli des témoignages, quand vous essayez de trouver s'il y a un point commun en fait, entre toutes ces traditions spirituelles et ces expériences qui arrivent autour de nous, il y en a un, et ça remonte, même Platon en parlait il y a 2000 ans de ça, en parlant d'un voile qui nous empêche de percevoir la réelle réalité. Comme si nous vivions, nous, là maintenant, alors que nous sommes en état d'éveil, comme si nous vivions en fait dans un rêve qui voile une grande partie de la réalité. Et ce qui se passe au moment de la mort, c'est que pour différentes raisons, et des raisons neurologiques qu'on connaît, hein, la mise en arrêt en fait, des fonctions inhibitrices de notre cerveau, c'est comme si tout d'un coup ce voile se déchirait et qu'on accède à plus de réalité. Alors c'est difficile à concevoir parce qu'on a l'impression, là, vous, moi, d'être dans le réel et qu'il n'y a pas d'autre réel, mais en fait, toutes ces expériences semblent indiquer que pour autant que ce réel dans lequel nous vivons a l'air d'être vraiment réel, quand vous avez une expérience de mort imminente, quand vous sortez de votre corps, ou quand vous mourrez, tout d'un coup, ce que vous percevez autour de vous s'amplifie d'une façon absolument colossale et vous avez vraiment l'impression de vous réveiller. Ça ressemble un peu au film Matrix, mais c'est à se demander si les scénaristes de ce film extraordinaire ne sont pas allés en fait piocher dans les expériences réelles de gens vivant justement ces éveils et ces expériences d'état modifié de conscience.
Alors, il y a aussi, vous citez aussi cette peur, hein, vous expliquez qu'on a tous en fait intrinsèquement cette peur de ne plus exister. Vous l'avez d'ailleurs vous-même expérimenté, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est un mécanisme déjà tout à fait normal et évident en fait. À partir du moment de notre conception, nous sommes des mammifères, nous sommes des êtres vivants qui avons été conçus et que l'évolution a amélioré au fil des millénaires pour faire de nous des êtres qui peuvent survivre dans un monde, pas tellement celui que l'on voit aujourd'hui par la fenêtre, mais celui des mammifères Homo sapiens, donc un monde qui, dans une immense majorité de son temps d'existence, a été dangereux et inquiétant. Donc notre cerveau, dont on dispose aujourd'hui, est encore le cerveau de l'Homo sapiens d'il y a 50 000 ans, 60 000 ans, qui vivait entouré de dangers innommables. Donc notre cerveau, c'est un outil adaptatif qui fait de nous des personnes qui sont capables de survivre dans cet environnement. Pour survivre, il faut quoi ? Il faut acquérir de l'expérience sur l'environnement dans lequel nous vivons. Savoir, commencer à comprendre qu'est-ce qui est menaçant, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui au contraire est un endroit sécurisé, etc. Et à partir de cet apprentissage de notre environnement, c'est notre capacité à anticiper ce qui peut se passer qui va aussi nous protéger et nous permettre d'éviter les dangers. Donc notre cerveau, le vôtre comme le mien aujourd'hui et comme celui de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est un outil qui ressasse en permanence son expérience passée pour essayer d'anticiper tout ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est un mécanisme d'anticipation, de rumination, d'anticipation et de rumination. C'est très bien, c'est très efficace, ça fait de nous encore une fois des êtres adaptés, mais ça a aussi pour conséquence de nous donner accès à rien d'autre que ce pour quoi il est câblé. En fait, notre cerveau nous coupe d'une immense partie de ce réel, de cette réalité, pour la bonne et simple raison que cette grande partie de la réalité, il n'en a pas tellement besoin pour remplir sa tâche, qui est celle d'une sorte de gardien. Donc notre ego, ce qu'on appelle notre ego, notre mental, c'est pas un gros mot, au contraire, c'est quelque chose, c'est comme un gardien intérieur, un gardien qui fait de nous des êtres protégés, protégés par nous-mêmes. Mais ce que ce gardien ignore, c'est qu'en plus de nous protéger contre des dangers potentiellement réels, il nous coupe aussi de plein de dimensions subtiles, de nous-mêmes, de nos profondeurs, de notre inconscient, mais aussi d'un monde invisible. Il nous coupe de ce monde spirituel, il nous coupe de ces dimensions auxquelles on réaccède une fois que le cerveau cesse de fonctionner, comme on le voit partiellement dans les expériences de mort imminente, ou comme on le voit au moment de la mort. Quand la mort, en fait, c'est juste l'arrêt de cette mécanique qui construit une personnalité tout au long de notre existence. Et nous ne sommes pas notre personnalité. Nous ne sommes pas ce visage que l'on voit dans la glace chaque matin quand on se regarde et qu'on se maquille ou qu'on se rase. Ce visage, c'est un personnage. C'est comme un outil qui nous sert à traverser cette existence, mais nous ne sommes pas ce personnage. Et quand on meurt, quand ce personnage meurt, quand il vieillit, quand son cerveau cesse de fonctionner, il y a quelque chose de fondamental au fond de nous qui se réveille et qui est bien surpris d'ailleurs, parce qu'on a passé sa vie à nous dire que finalement ça n'existe pas, la vie après la mort. Donc on est bien ébaudi de découvrir que si, ça existe en fait.
Merci pour ces explications. Donc, vous citez que... Alors, c'est un peu plus technique, mais il nous reste un peu de temps, donc ça me tenait à cœur de vous poser cette question aussi. Donc, vous citez « La conscience semble s'affranchir de l'activité du cerveau, donc pour révéler sa dimension non locale, si je comprends bien, pour se connecter à d'autres réalités, donc il faudrait réduire notre activité du réseau mode par défaut pour laisser émerger une autre forme de conscience, c'est bien ça ?»
Bah en fait, oui, ce que je viens d'expliquer, là, je rentre effectivement dans le livre de façon beaucoup plus précise sur les mécanismes en œuvre dans le cerveau, parce que ce que je raconte, ce n'est pas ma vue de l'esprit, c'est vraiment basé sur des recherches, notamment en neurosciences, qui montrent la façon dont cette personnalité, ce sentiment d'ego et d'individualité est soutenu par une activité cérébrale. Et ce qui est curieux, c'est que effectivement la prise de substances psychédéliques comme celles qu'ingèrent les chamans en Amazonie, qui en ingérant ces substances disent aller dans le monde des morts, c'est une substance dont on voit que sur le cerveau, elle provoque précisément l'extinction ou à tout le moins une baisse d'activité très sensible dans ce réseau du mode par défaut, qui est le réseau cérébral qui sous-tend notre sentiment d'ego, notre personnalité. Donc c'est assez curieux de s'apercevoir que ces chamans qui n'ont jamais fait de neurosciences et n'ont pas un seul IRM ont acquis cette connaissance de manière subtile et intuitive, disent que en ingérant une plante, ils vont aller dans un monde des morts, dans un monde des esprits, alors que quand les scientifiques mesurent l'effet de cette plante sur le cerveau, on s'aperçoit que ça fait baisser une activité du cerveau qui inhibe en fait notre véritable conscience. Et ce qui est aussi frappant, c'est que les expériences de mort imminente, c'est exactement ça aussi. Voilà des gens qui, pour une majorité des témoignages qui nous sont rapportés, ont vécu une expérience d'expansion de conscience à un moment où ils sont soit dans le coma, soit en moment de défibrillation ventriculaire très, très dangereuse qui fait baisser l'activité cérébrale à quasiment zéro, soit carrément en arrêt cardiaque. Voilà des gens dont le cerveau fonctionne moins bien, voire plus du tout, qui, à l'inverse d'être inconscients selon tout ce que nos modèles voudraient nous laisser croire, ont un moment d'expansion de conscience. Et ce qui est frappant et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce moment d'expansion de conscience, ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste une belle histoire un peu impressionnante que l'on se raconterait, qui pourrait, somme toute, malgré tout, être réduite par le fait qu'il s'agit simplement d'une activité cérébrale. Dans ce moment d'expansion de conscience, les gens qui le traversent ont des perceptions qui peuvent être avérées par la suite. Un témoin, par exemple, rencontre sa sœur qui lui dit qu'elle vient de mourir et que lui, ce n'est pas encore son heure. Et quand cette personne est ranimée, elle apprend que sa sœur est morte pendant que lui-même était en arrêt cardiaque, chose qu'il ne savait pas avant de partir. Ou alors, une personne sur un bloc opératoire vit une expérience de sortie hors du corps, et il se promène dans l'hôpital et il observe des détails et des choses qu'il va pouvoir rapporter par la suite à son médecin qu'il n'avait aucun moyen de percevoir, parce que c'est quelque chose qui se passe dans un bloc opératoire distant ou à côté. Des témoignages comme ça, il en existe des centaines, voire des milliers. J'en ai vérifié beaucoup avec les témoins eux-mêmes et avec les équipes soignantes, et ils attestent que dans ces périodes de crise où le cerveau est en grande souffrance, plutôt que de devenir inconscient, on accède à une conscience qui n'est plus prisonnière du temps et de l'espace. C'est comme si elle pouvait se promener à n'importe quel endroit de l'espace et même dans le temps, c'est-à-dire dans le passé ou dans le futur. Et C'est ça, c'est ça qui reste de la réalité de ce que j'appelle la conscience fondamentale, c'est-à-dire quelque chose qui nous constitue, qui est peut-être la part la plus essentielle de nous-mêmes.
Moi, j'avais une question aussi personnelle. Stéphane, après toutes ces expériences, bon, bien sûr, il y a eu aussi toutes ces années d'expérience en Amazonie avec les chamans, il y a eu plein de choses. Qu'est-ce que l'éveil? Comment est-ce que vous pourriez le définir?
Il y a plein de définitions différentes de ce mot-là. Mais pour moi, ça caractérise le moment où justement les croyances et les certitudes que l'on a construites durant notre existence pour, en pensant comprendre la réalité dans laquelle on vit, tout ça s'effondre. Et on comprend que tout est une forme d'illusion. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est un peu le moment où on est capable de se rendre compte que justement ce visage que l'on regarde dans la glace le matin, ce n'est pas nous. Alors, mentalement, parce qu'on a lu beaucoup de livres spirituels, parce qu'on a lu éventuellement mon livre, parce qu'on comprend que justement notre conscience ne se réduit pas à notre corps et à notre personnalité, on peut comprendre intellectuellement cette réalité, mais quand on se voit dans la glace, on voit son visage et il n'y a pas photo, c'est nous. Enfin, on ne peut pas sortir de cette évidence que c'est nous. Et peut-être que l'éveil, c'est un moment se retrouver devant la glace et s'observer comme quelqu'un d'extérieur. S'observer sans avoir plus d'identification avec ce visage que l'on voit dans la glace. Et avoir la capacité de revenir, parce que c'est quand même pratique de quand même revenir dans cette perception pour pouvoir vivre au quotidien. Mais avoir la capacité de faire l'expérience de cette dissociation, c'est peut-être le début de l'éveil. Mais pour m'intéresser beaucoup aux traditions spirituelles du monde et notamment de l'Inde, je pense que l'éveil, ce n'est pas un moment, c'est une progression constante vers une plus grande clarification de nos illusions, de notre confusion, et que c'est un mécanisme et un processus sans fin.
Merci d'avoir répondu à ma question. J'avais aussi... Alors, j'ai relevé quelque chose qui me semblait vraiment essentiel de le partager aussi auprès des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Alors, ma question serait, pourquoi est-il si important d'entamer un travail psychologique et spirituel? Donc, les deux indépendamment, hein, bien sûr, l'un de l'autre. Pourquoi c'est si nécessaire et si important?
Ben ça, je m'en suis aperçu en fait en cheminant moi-même. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressé à la question de la mort suite à la mort de mon frère. J'ai assisté à l'accident, ça a été un moment traumatique pour moi, mais comme je suis un homme, je me suis dit je vais gérer ça moi-même, je n'ai pas besoin d'aller voir un psy, je suis costaud, je gère. Et parallèlement à cette posture un peu de déni, j'ai entamé ma recherche, mon travail d'abord scientifique et journalistique autour de la question de la conscience, et puis progressivement de plus en plus spirituel à mesure que je découvrais cette réalité spirituelle. Donc j'avais à la fois un cheminement qui m'amenait assez loin dans le constat que nous sommes des êtres spirituels et que la spiritualité est vraiment pour moi le fondement de notre réalité. Et à côté de ça, j'avais une blessure psychologique qui était due à la mort de mon frère, dont je n'avais jamais pris soin. Et je pensais un peu naïvement que mon chemin d'exploration, mon chemin de journaliste et d'enquête allait régler le problème psychologique, régler la blessure du deuil. Et à ma grande surprise, ça n'a pas été le cas, jusqu'au moment où je suis allé voir un psy pour traiter, notamment avec une technique de médecine une technique psychocorporelle qui s'appelle l'EMDR. J'ai traité le trauma qui avait été le mien d'assister à l'accident et à la mort de mon frère. Ça s'est fait en quelques séances, il y a eu un bien-être manifeste et durable qui s'est installé derrière. Mais en fait, pendant un moment, j'avais confondu le domaine du psychologique personnel avec le domaine du spirituel. Et souvent, j'observe, spécialement dans notre société, où on ne sait pas trop où placer le spirituel, on ne sait pas si c'est vraiment réel, comment c'est réel. On mélange un peu tout. Et on s'imagine que, et je l'ai vu beaucoup chez des gens en deuil, qui avaient perdu notamment des enfants, on néglige parfois de prendre soin de soi en s'imaginant que, par exemple, qu'aller voir un médium qui va nous apporter la preuve que notre petit garçon ou notre petite fille est encore vivant quelque part, ça va régler la douleur et le problème. Non, ça fait du bien, ça aide à ouvrir plein de questionnements dans un parcours de deuil. Mais un médium n'est pas un psychothérapeute, et un psychothérapeute n'est pas un médium. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre prendre soin de soi et prendre soin de ses blessures psychologiques, surtout quand on a traversé un deuil, et surtout quand ce deuil peut avoir des causes traumatiques, et le cheminement spirituel qui, pour moi, est vraiment dissocié des deux. Et si on attend de la spiritualité qu'elle soigne nos blessures psychologiques, on s'expose au risque, peut-être 20, 30 ans après le drame, que tout d'un coup, un aléa de l'existence nous fasse chavirer parce qu'on n'aura pas pris soin, on n'aura pas construit, on n'aura pas guéri cette personnalité blessée au fond de nous. Et à l'inverse, mais ça on le voit autour de nous dans notre société, si on notamment dans un cadre de deuil, on ne privilégie que la voie psychothérapeutique sans avoir la moindre ouverture ou la moindre curiosité vers le monde spirituel, on est un peu orphelin de quelque chose aussi. Ça fait du bien, c'est important, c'est primordial même de prendre soin de soi, surtout dans ces périodes-là. Mais c'est vrai que pour moi, la réalité spirituelle est tellement indiscutable aujourd'hui au vu des recherches et de tout ce que je présente dans ce livre, « La mort n'existe pas », que c'est presque un gâchis de ne pas l'intégrer dans le parcours de deuil qui est le nôtre quand on a perdu quelqu'un.
Alors, il y avait aussi, donc, pour revenir un peu sur les chamans amazoniens aussi, ces guérisseurs, donc curanderos, comme on dit en espagnol. Donc, vous parlez aussi de la plante ayahuasca, mais on va y revenir. Vous nous éclairez aussi sur un point essentiel où vous expliquez, chose que les chamans ont très bien compris, qu'avant de voir l'invisible externe, c'est d'abord l'invisible interne auquel on est confronté. Avant de voir les esprits, sont d'abord les fantômes intérieurs qui apparaissent. Et ça, je trouve que c'est important de le savoir, quand même, de le relever.
Oui, exactement. Ben, c'est vrai que les neurosciences nous ont permis de comprendre que le chamanisme, et notamment celui qui est induit par des substances psychoactives comme en Amazonie, provoque des changements dans le cerveau qui nous rendent perceptible une part de la réalité qu'on ne perçoit jamais. C'est un peu comme si on était aveugle de naissance et qu'en buvant une substance, tout d'un coup, on va voir. On va voir la lumière, la couleur, les objets, les profondeurs. Ben, il va falloir un petit peu de temps pour commencer à comprendre ce que l'on voit. Et surtout, ce que l'on voit va avoir un impact sur nos émotions, sur nos croyances. Parce que imaginez que vous êtes aveugle de naissance, vous ne savez pas ce que c'est que l'espace. L'espace se réduit à ce que vous avez pu toucher avec vos doigts. Enfin, il faudrait demander à un non-voyant de naissance de nous décrire sa réalité. Mais une nouvelle réalité nous apparaît, elle va bousculer tous nos repères, bousculer nos croyances, bousculer ce que l'on pense être la réalité, et surtout générer des émotions en nous qui peuvent faire bouger des choses qui sont de l'ordre de ce que l'on pensait être construit et stable. On passe notre existence à essayer de devenir quelqu'un de stable, d'équilibré, de construit, mais en fait cette personnalité est extrêmement fragile et elle est susceptible d'être bousculée par tout ce qui nous arrive dans la vie. On se fait virer d'un boulot, on met fin à une relation avec un conjoint, à plus forte raison on vit un état modifié de conscience en vivant une expérience de mort imminente ou en partant faire du chamanisme en Amazonie. Ça va évidemment bousculer cette petite carapace qu'on a patiemment construite. Donc, bousculer la carapace, c'est à la fois s'offrir la possibilité de voir un peu plus de ce réel, mais c'est aussi prendre le risque d'être plus fragile et plus vulnérable, en fait, face à un environnement qui peut être menaçant. Donc, c'est quelque chose qui nécessite d'être fait avec beaucoup de prudence et beaucoup de discernement et qui demande du temps, qui demande beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris 15 ans.
Voilà, vous nous montrez bien que ça demande aussi de la patience, du temps, et que tout ne se résout pas justement en un claquement de doigts. Ça aussi, c'est important de se le dire dans une société où on a l'habitude d'aller vite, d'avoir des résultats. Je pense que c'est important aussi de revenir au cœur de la nature et de se rendre compte que on a toute une vie pour travailler sur beaucoup de choses.
Et c'est même peut-être ça le sens de la vie, c'est de la consacrer à essayer d'être moins confus et à progresser.
Complètement. Bon, eh bien, j'ai encore une dernière question. Justement, donc, vous citez que nous vivons donc totalement hypnotisés par le bruit de nos pensées. Hein. C'est une activité dont le seul but est de maintenir la cohésion apparente du rôle que nous jouons. On en a déjà parlé en début. Ma question, c'était comment la méditation peut-elle justement nous aider à réduire ces pensées qui sont omniprésentes ?
Bah effectivement, je suis content que vous souligniez cette question parce que je me suis beaucoup appuyé dans ce livre sur les recherches en neurosciences qui permettent de comprendre justement comment à la fois le cerveau est un outil formidable, mais aussi quelque chose qui nous enferme dans des automatismes et que notre vision de la vie peut être radicalement changée sur la base de ce que les neurosciences nous annoncent aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, parce qu'on évoquait le chamanisme et les psychédéliques, qui bousculent voilà, notre carapace et qui bousculent notre activité cérébrale pour tout d'un coup nous permettre de voir des choses différentes, de voir peut-être une profondeur plus intense de notre réalité et de notre être, bah, la méditation, ça fait la même chose. On voit que l'effet des psychédéliques sur le cerveau est similaire à celui de la méditation, sauf que le psychédélique, ça se fait de façon brutale et réversible, donc c'est déstabilisant, c'est non contrôlé par la personne qui fait l'expérience, et puis ça peut être effectivement extrêmement déstabilisant. La méditation, elle fait exactement le même effet, mais c'est un effet qui s'installe de façon durable et beaucoup plus douce, et qui permet justement, au bout de simplement quelques semaines de pratique, hein, les études montrent ça, au bout de simplement quelques semaines de pratique absolument régulière, on commence à être beaucoup moins submergé par ces automatismes cérébraux qui nous font ruminer, anticiper. Vous et moi, à l'âge qu'on a, on ne subit pas trop au quotidien cette mécanique cérébrale de rumination, anticipation. Mais plus on prend de l'âge, et notamment chez les personnes âgées, ce mécanisme d'anticipation et de rumination devient une espèce de rouleau compresseur qui empêche d'avoir les idées claires et qui, je l'ai vu notamment avec ma maman que j'ai incité à pratiquer la méditation il y a quelques années, j'ai vu sur elle les effets extraordinaires d'apaisement, de calme, mais au-delà de cet effet bien-être qui à mon sens n'est pas le but premier de la méditation, au-delà de cet effet bien-être qui est un effet collatéral, il y a la chose pour moi la plus essentielle, c'est le réaccès à notre âme, le réaccès à notre dimension spirituelle. Méditer, ça sert d'abord à devenir un vrai être humain, à se reconnecter avec notre âme et avec notre dimension spirituelle. Et que ça nous fasse du bien, que ça nous déstresse, bah c'est génial, c'est un effet secondaire, mais ça sert déjà à se reconnecter à cette dimension immortelle que nous portons en nous. Et de cela, possiblement aussi à nous connecter à d'autres âmes qui continuent à nous entourer, à nos morts, à ceux qu'on aime. Moi, la pratique de la méditation ne m'a pas permis de devenir médium, je ne suis pas médium, mais elle m'a permis d'avoir une beaucoup plus grande sensibilité et de ne pas passer à côté de certaines expériences extrêmement troublantes et extrêmement puissantes que j'ai pu avoir avec mon frère ou mon père, qui est décédé aussi, en installant seulement une pratique régulière qui est facile à caser dans une journée. Quoi.
Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ce merveilleux partage. J'ai une dernière chose à vous demander. Est-ce que vous voudriez alors dire quelque chose à la communauté des consciences qui s'éveillent, pour terminer ?
Bah, continuez les gars. c'est peut-être ça la chose la plus importante à faire dans cette existence. Et souvent... dans notre monde, on a l'impression de dissocier le réel dans lequel il faudrait bosser, être raisonnable, penser à être à son salaire aux courses du soir, etc. Et puis l'éveil qu'on réserverait à un moment où enfin on aurait le temps. Mais non, je pense que chaque seconde de notre existence est une opportunité d'éveil. Et chaque seconde de notre existence est un moment qui va nous confronter à parfois même à des difficultés ou des choses compliquées ou à l'inattendu. Et c'est précisément dans l'inattendu, dans l'inconfortable, qu'on a une plus grande capacité à rencontrer ce qui va bloquer notre éveil et ce qui va être en résistance. Donc la vie entière, chaque seconde de notre vie, le boulot, le métro, les aléas de la vie sont à chaque fois des terrains d'entraînement pour l'éveil. Donc l'éveil ne se découvre pas en fuyant le monde, mais au contraire en y plongeant avec confiance, même si c'est dur.
Ouais, c'est ça. Finalement, la mort, ça nous ouvre sur la vie. Et c'est ça qui est bon.
ça serait mieux de s'ouvrir sur la vie avant de mourir.
Oui, c'est sûr. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Stéphane. C'était merci un vrai beaucoup. Plaisir. Et merci aussi aux auditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à commenter, à partager cet épisode et nous partager vos ressentis. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.